20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons 5G dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
On parle de science, mais ce soir, la technologie est à l'honneur sur Radio Campus Paris. Et oui, quel bonheur de pouvoir se faire un partage de connexion avec son smartphone lorsque la box nous plante en plein confinement. Quel bonheur aussi d'écouter Spotify, Deezer ou même YouTube dans le métro. Sachez que le progrès continue avec l'arrivée de la 5G. Alors, quelles sont les nouveautés et les défis de la cinquième génération de réseaux mobiles? Pour le savoir, nous recevons Alain Sibyl. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Télécom Paris et secrétaire général d'URSI France, la branche française de l'Union Radio Scientifique Internationale. Et Arnaud Vamparis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des réseaux radio du groupe Orange, vous coordonnez notamment le développement de la 5G pour les clients d'Orange. Tout à l'heure, Jade nous donnera les dernières nouvelles de l'actualité scientifique et en fin d'émission, Vadim s'attaquera à l'infiniment grand pour nous en donner un aperçu.
Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Et bonsoir Guillaume.
Bonsoir Gaspard.
Guillaume, tu vas nous faire un point sur ce qu'on sait à ce jour sur la 5G.
Eh oui, alors commençons tout d'abord par nous renseigner sur la 4G. 4G définit les standards de téléphonie mobile de quatrième génération. Pour nous, simples utilisateurs, le passage à la 4G nous permet d'utiliser YouTube dans le métro. Avec ses 3 gigabits par seconde de données théoriques et entre 10 à 80 mégabits par seconde dans la réalité, nous pouvons profiter de l'ensemble des contenus que nous offre Internet. Nous pouvons aussi travailler n'importe où avec une clé 4G qui fournit un accès Internet pour notre ordinateur. L'usage pour les entreprises de cette technologie est assez limité, mais cela permet aux utilisateurs d'avoir accès rapidement à leurs données en ligne. Concernant la quantité de données transmises, elles seront décuplées avec la 5G. Nous devrions avoir un débit entre 500 mégabits par seconde et 1 gigabit par seconde. Concrètement, nous pourrons regarder une vidéo 4K et même 8K stable sur notre smartphone. Les fréquences des signaux de données changent aussi. Pour la 4G, nous sommes entre 0,7 GHz et 2,6 GHz, et pour la 5G, nous serons dans des fréquences entre 3,4 et 3,8 GHz en France. Ce qui va surtout changer, c'est le nombre de connexions supportées par la 5G. Nous pourrions connecter 1 million d'appareils au kilomètre carré. Cela semble énorme, mais les villes les plus denses ont aujourd'hui 100 000 habitants au kilomètre carré. Chaque habitant pouvant avoir plusieurs objets connectés, on se rend rapidement compte que ce million est vite atteint. Cependant, la 5G représente une véritable évolution pour le monde professionnel. Les débits de la 5G permettraient en effet de pouvoir gérer beaucoup plus facilement des logistiques complexes de transport à travers le monde, mais nous y reviendrons avec nos deux invités. Beaucoup de boucliers se sont levés contre la 5G et le danger des ondes. Le fait que les fréquences 5G soient plus élevées a pour conséquence de diminuer leur portée. Il y a donc une peur, celle d'être dans un bain d'ondes en continu du fait de la multiplication des antennes. Mais la 5G devra respecter des normes en termes de puissance d'émission qui ont justement pour objectif de protéger les populations. Il reste la peur des ondes, qui sont classées comme peut-être cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Dans cette catégorie, il y a le fioul et le plomb, mais aussi l'aloe vera et les légumes en saumure. Nous n'avons donc pas pour le moment les connaissances nécessaires pour affirmer que les ondes de nos téléphones portables sont dangereuses pour la santé. En attendant d'en savoir plus, la 5G vous permettra de nous écouter en toute tranquillité, mais pas seulement. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités.
Quand vous regardez ce qui est lié à la 5G, en fait, il y a une toute petite partie qui est la consommation d'énergie, les terminaux qu'on va utiliser, les réseaux qu'on va utiliser, mais le gros de la consommation d'énergie est ailleurs. Il est dans la fabrication des smartphones et des écrans connectés de toutes sortes qu'on va utiliser avec la 5G. Il est dans la fabrication des objets connectés, parce que vous savez, la 5G, c'est le rêve des objets connectés, donc on va connecter votre trousse à maquillage, vos pantoufles et mon slip. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça ? Pas complètement sûr.
Rebonsoir à nos deux invités, Alain Sibylle et Arnaud Van Paris. Merci encore d'avoir accepté notre invitation dans l'Atome de Savoir. Je vous propose d'abord de réagir à cette interview de Jean-Marc Jancovici sur la 5G qui a été menée par la chaîne YouTube suisse Nouveau. Arnaud Van Paris.
Mais en fait, la 5G, c'est la nouvelle génération de réseaux mobiles. Hein, et donc, au-delà des débits plus élevés qu'elle apporte par rapport aux générations précédentes, donc la 4G, pour nous, dans notre quotidien, c'est surtout une connectivité qui va être plus intelligente, plus performante et puis également plus efficace d'un point de vue énergétique. Alors, pour nous, au quotidien, en tant que client grand public, ça va nous offrir en fait un accès plus fluide à nos services, également d'une possibilité d'expérience un peu plus immersive, plus en 360 degrés. Et puis pour les entreprises, ça améliore grandement en fait les processus industriels, notre façon de travailler. Ça peut être appliqué à l'ensemble des secteurs en fait de notre économie, que ce soit la gestion de l'eau, l'énergie, les déchets, le transport, dans les bâtiments. Ça va aussi offrir beaucoup de services autour de la ville intelligente. Et donc la 5G, ça va nous permettre progressivement d'améliorer la qualité qu'on offre à chacun de nos clients.
Alain Sibylle, pour vous, techniquement, quelle est la valeur ajoutée de la 5G par rapport à la 4G ?
Mais en fait, c'est un petit peu à chaque nouvelle génération, c'est évolution-révolution, et ça repose en bonne partie sur des technologies quand même nettement avancées par rapport à la génération précédente, et ces nouvelles technologies, elles viennent aussi d'avancées scientifiques. Donc on vit ça depuis 30 ans, finalement. Les technologies d'aujourd'hui sont sans aucun doute beaucoup plus performantes qu'elles n'étaient il y a 30 ans au démarrage du GSM. Et donc, elles font un bien meilleur usage de la ressource spectrale, ce qu'on appelle, c'est effectivement la disponibilité d'accès au spectre radio, qui est quelque chose de très réglementé. Mais on a maintenant beaucoup plus de spectre qui est disponible. Alors, ça coûte cher aux opérateurs, mais c'est aussi parce que ça apporte beaucoup de services. Donc, la combinaison à la fois de cette ressource spectrale disponible et du fait qu'on a des technologies beaucoup plus performantes, ça offre de très nombreuses, possibilités. Donc, ça a été évoqué de façon un peu humoristique par Jean-Marc Jancovici. Bon, je pense que c'est très caricatural, comme quelquefois on entend assez souvent. Il faut trier là-dedans. Dans toutes ces technologies et ces nouveaux usages, il y a beaucoup à dire, il y a certainement beaucoup à trier. Enfin, c'est une nouvelle aventure quelque part, je pense qu'il ne faut pas la rejeter d'emblée. Faut pas non plus peut-être caricaturer sur le modèle Amish, c'est peut-être un peu excessif. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup de finesse, de précision, d'ouverture d'esprit, et être attentif, être prudent très certainement, parce que l'histoire humaine montre que quelquefois on va beaucoup trop vite dans des usages qui sont effectivement pas très intéressants. Mais il y a quand même beaucoup d'opportunités, et je pense que dans les années qui viennent, on va voir l'émergence de ces usages, et il faudra effectivement être attentif, tout un chacun aussi, en partie un petit peu maître de ses propres usages, et c'est ça qu'on va voir.
Alors aujourd'hui, vous pouvez poursuivre si vous voulez, Alain Sibylle, pourquoi a-t-on besoin de cette 5G ? Est-ce que c'est une évolution finalement ou une révolution ?
Alors, ce qui va se passer là encore, c'est pas nouveau pour la 5G par rapport aux générations précédentes, ça va se faire dans le temps. En gros, une génération, c'est 10 ans. Et en plus, elle dure longtemps après. Ce qui fait que la 5G d'aujourd'hui, en service commercial, c'est effectivement en gros la 5G du smartphone. Alors que dans les quelques années qui viennent, on va avoir toute une floraison de nouveaux usages qui sont beaucoup plus dans le registre machine-to-machine, qui va venir, mais qui ne bénéficiera réellement que lorsque on sera au cœur, le cœur 5G, sans être trop technique. Aujourd'hui, c'est des greffons radio qui nous permettent effectivement de bénéficier du spectre disponible, donc faciliter un peu la fluidité, ça on est d'accord. Mais les applications vraiment industrielles, elles arriveront quand il y aura un cœur de réseau 5G qui sera installé, ce qui va prendre du temps pour diverses raisons, d'investissement notamment. Et ça, ça permettra, la vraie innovation, c'est ce qu'on appelle URLLC, pour utiliser un acronyme un peu technique, ça veut dire une plus grande, bien plus grande fiabilité, ce qui évidemment est très important pour les applications industrielles et pas seulement industrielles, et également une bien plus faible ou une plus faible latence, qui là encore va être très intéressant pour un certain nombre d'usages pour lesquels il faut de la réactivité très grande entre, disons, le point de départ, le service auquel on va accéder, qui est quelquefois un peu distant, et puis le retour. Donc, c'est ces deux aspects, latence et fiabilité, qui vont être très importants, et ça, c'est ce que la 4G ne permet pas, et c'est ce qu'on aura dans les années qui viennent avec le cœur 5G et une multiplicité d'innovations qui vont venir dans le domaine du véhicule, de la santé, probablement. Voilà, on va avoir le temps, j'espère, d'en parler.
Arnaud Van Paris, donc la 5G, si je comprends bien, elle arrive avant que tous les objets qui vont l'utiliser pleinement arrivent eux-mêmes sur le marché.
Alors, effectivement, c'est une nouvelle génération, donc ça veut dire que ce sont les smartphones qui sont vendus aujourd'hui qui deviennent compatibles 5G. Et puis, comme l'a expliqué Alain Civil, on a deux parties dans le réseau. Une partie qui est composée principalement d'antennes, ce qu'on appelle le réseau d'accès, et puis une partie où circulent nos messages, le cœur de réseau. Et donc là, l'introduction de la 5G se fait en fait en deux étapes. La première étape, ça va être d'introduire de nouveaux types d'antennes, des antennes un peu plus intelligentes, composées en fait d'un grand nombre de transmetteurs miniatures qui vont composer cette nouvelle antenne et qui vont permettre, à la différence des générations précédentes, de ne pas émettre partout tout le temps, mais au moment où c'est utilisé et aux endroits où c'est utilisé. C'est une technologie qu'on appelle dans notre jargon Massive MIMO, qui permet de faire ça. Et donc, sur les sites existants, les sites 4G existants, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit sur des toits terrasses ou sur des pylônes. On va ajouter une nouvelle antenne ou remplacer une antenne existante par une antenne compatible 5G. C'est cette 5G-là qui est déjà opérationnelle, commerciale en France aujourd'hui et qui nous permet en fait d'avoir un équivalent un peu de la fibre dans sa poche, hein, des débits très importants et également finalement une qualité d'expérience où on a moins de coupures, moins de toujours un débit minimum. On le fait naturellement là où c'est important et puis surtout pour éviter une saturation de nos réseaux 4G. Parce qu'en fait, sans l'arrivée de la 5G, on aurait commencé à avoir en France des endroits où on serait saturé, c'est-à-dire on aurait une baisse progressive de la qualité de service en 2021, en 2022. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, cette connectivité à Internet est devenue vraiment essentielle. On a quand même une croissance des usages de nos clients à peu près de 40% par an. Donc, ça veut dire quoi ? On fait 1x10 en 6-7 ans. Et donc, la 5G arrive au bon moment en Europe, en France. Ça nous permet de faire face à la demande. Et ça, on le fait justement avec ces nouvelles antennes. On a une deuxième étape, comme l'a indiqué Alain Civil, c'est le cœur de réseau. Ça, c'est quelque chose qui va arriver plutôt à partir de 2022-2023, progressivement. Et ça permet d'avoir une meilleure qualité de service par type d'objet, par type de processus métier dans le monde industriel, c'est-à-dire de commencer à différencier plus la qualité de service entre un capteur, entre un véhicule, un smartphone, une caméra, et donc de vraiment adapter la qualité de service au type d'objet. Et donc ça, c'est une deuxième étape. La première étape, le remplacement des antennes, s'appuie donc sur la 4G. Et la deuxième étape vraiment permet de faire une 5G pure, dissociée des générations précédentes pour augmenter encore la qualité de service, le niveau de sécurité, de résilience du réseau.
Alors, ces nouveaux objets communicants qui vont donc se connecter en 5G, est-ce qu'on les verra arriver dans les années à venir ? Et qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que vous avez des exemples, Arnaud Van Paris ?
Alors oui, là aujourd'hui, on utilise principalement un smartphone, une tablette, un PC pour se connecter à Internet. On commence à avoir d'autres types d'objets qui arrivent, par exemple des caméras qui peuvent être directement connectées. Ça peut être des accessoires comme des lunettes communicantes qu'on commence à voir apparaître, plutôt dans le domaine industriel aujourd'hui, pour un technicien, un ingénieur, pour pouvoir voir directement des informations concernant son travail, pouvoir être guidé, avoir des guides en ligne qui s'affichent. Et progressivement, ça va arriver dans notre quotidien. On peut penser aussi à d'autres objets. Nos voitures deviennent de plus en plus communicantes. Naturellement, quand on va vers l'électrification, l'autonomie des voitures, donc ces voitures connectées vont jouer un rôle de plus en plus important pour la partie logicielle des voitures évolue vite. Et donc, on a besoin de mettre à jour ces logiciels, de les sécuriser, d'avoir également une fluidité du trafic, une prévision du trafic au niveau global. Et c'est ce que la connectivité 4G a commencé à faire et que ça va se déployer encore plus d'ici 2030 avec la 5G. Un grand nombre d'objets vont arriver, on ne les connaît pas tous. On commence à les tester dans les labos, on voit un certain nombre de propositions. Et donc, souvent, la technologie en fait arrive et puis progressivement, les objets utilisent au mieux cette technologie. C'est ce qu'on va voir, nous, apparaître dans notre quotidien. Ça peut être aussi des petits robots qui se déplacent sur des chaînes de production, ce qu'on appelle des chariots, des AGV dans le jargon industriel. De nombreux objets, je pense, vont apparaître avec cette nouvelle génération 5G.
Bien. Alors, Alain, Sibi, peut-être que vous voulez compléter quelque chose, mais sinon, je vous demanderai peut-être directement si on peut reprendre des infrastructures de la 5G pour faire de la 5G, ou s'il faut vraiment installer des nouvelles antennes.
Alors, en fait, ce qui se passe, mais ça vient d'être expliqué aussi par Arnaud Van Paris, actuellement, les opérateurs, ils réutilisent des sites existants. Et puis, ils rajoutent des équipements. Ce sont des équipements forcément propres à la 5G, puisque les normes ont évolué. Et donc, il faut implémenter dans le matériel ces nouvelles normes. Et puis, ces antennes de type MIMO massif qui ont été évoquées, elles se surajoutent là. Donc, pour l'instant, je pense que c'est essentiellement d'installation sur site existant. Après, on a effectivement une petite évolution des fréquences qui est relativement modérée, mais qui n'est pas tout à fait négligeable, qui va probablement, dans les années qui viennent, petit à petit, et en fonction des nécessités de couverture, forcer les opérateurs à installer de nouvelles antennes à certains endroits pour avoir une meilleure couverture, du fait que, comme la fréquence est plus élevée, la portée est un peu moindre. Donc ça, c'est pour ça que ce déploiement, mais là encore, c'est pas nouveau, il va se faire petit à petit, il va s'enrichir. Évidemment, il va être fonction des besoins, puisque les opérateurs, c'est pas des philanthropes, ils installent leurs équipements là où ils ont quelque part, il y a une nécessité, une logique de rentabilité, donc d'usage, de densité de population ou de densité de besoins. On peut avoir effectivement des besoins industriels dans certaines zones, peut-être. Donc, pour l'instant, c'est vrai, c'est de toute façon des équipements propres à la 5G. Simplement, dans ces standards, ces normes de la 5G, les organismes internationaux qui ont standardisé ont fait attention à ce que le maximum de compatibilité entre la 4G et la 5G. Donc là encore, sans trop rentrer dans les détails techniques, les formes d'ondes, la façon dont les signaux sont échangés sont assez compatibles. Et donc, ce n'est pas une révolution totale, c'est simplement une efficacité qui est meilleure et qui, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, permet d'être plus intelligent, de démettre seulement quand il faut, même à sur des intervalles temporels relativement courts. Donc, c'est des parties des équipements supplémentaires qui se rajoutent.
Si je comprends bien ce qu'a dit Alain Sibyl, Arnaud Van Paris, on ne va pas installer de nouvelles antennes, on va juste installer des petits équipements qui vont compléter les antennes 4G pour pouvoir faire de la 5G.
À court terme.
C'est ça, à court terme, donc sur les premières années, sur les mêmes sites de nos réseaux mobiles, donc ce qu'on voit déjà sur les toits terrasses, les pylônes, on va ajouter, remplacer des antennes par des antennes plus intelligentes qui nous permettent de faire face effectivement à la montée de l'usage, et puis également pour baisser la consommation énergétique unitaire, c'est-à-dire en watts par gigaoctet, le but c'est de baisser cette consommation et donc effectivement de d'utiliser la performance de la nouvelle génération, la 5G, pour ça. Comme effectivement ça couvre au fur et à mesure là où c'est utile, ça nous permet vraiment de, là aujourd'hui, de diviser par deux cette consommation énergétique unitaire là, en 2020, et puis à horizon 2025, dans nos calculs, on arrive à diviser par 10. Donc par exemple, si on doit avoir 10 fois plus d'usage d'ici 2025, ben, en fait, on est en consommation constante. Donc, on a un vrai effort dans notre industrie pour limiter la consommation énergétique de nos réseaux. On le fait très bien sur les infrastructures fixes. Hein, quand on passe du DSL à la fibre, ça consomme moins. Et là, il y a un effort important en cours sur les réseaux mobiles. Donc, la 5G est une belle étape pour ça. On a en particulier réussi à introduire des modes de veille. Nous, déjà, on voit ces modes de veille sur les smartphones. Hein, c'est quand l'écran s'éteint, bah, derrière, il y a des parties de l'équipement, voilà, qui se mettent en veille. Hein, et pareil, au niveau de la connectivité vers Internet. Et là, sur les réseaux, c'est pareil. On a des modes de veille hein, plus avancés en 5G qu'en 4G, qui permettent, quand le réseau les peut utiliser, par exemple la nuit, mais également à certains moments de la journée, à certains endroits géographiques, de... que les équipements s'éteignent. Donc, ça peut être au niveau des composants électroniques, des chipsets, ça peut être au niveau d'une carte électronique ou même globalement d'un équipement. Ces différents niveaux de veille ont été standardisés et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre quand on déploie le réseau 5G. Pour nous, il est important de conserver la meilleure qualité de service par rapport aux concurrents, mais également de faire attention sur la consommation énergétique. C'est pour ça aussi qu'on souhaitait reprendre les infrastructures de la 4G. Le standard a été fait comme ça. Hein, la première étape, c'est bien d'être sur une 5G associée à la 4G. Ça s'appelle non-standalone, hein, c'est associé à la 4G. Et puis, une deuxième étape où on a cette 5G vraiment séparée, 5G standalone, quand on mettra le nouveau cœur de réseau 5G. Voilà, donc c'est progressif. On reprend le maximum d'infrastructures. Comme c'est indiqué, parfois il faut qu'on rajoute un peu des équipements dans les bâtiments, dans certains bâtiments, pour avoir une meilleure couverture dans les bâtiments. Mais globalement, le réseau mobile pour les premières années et c'est sur les mêmes sites que la 4G.
On installe donc de nouvelles antennes qui supportent plus de connexions, mais finalement des connexions qui sont des connexions d'appareils qui sont plus proches géographiquement pour une antenne 5G que pour une antenne 4G. Et c'est peut-être pour ça que vous déployez un petit peu plus d'équipements dans les immeubles, par exemple.
Alors, c'est surtout parce qu'on a de plus en plus d'immeubles qui ont une qualité environnementale plus forte. Donc, ils laissent moins passer en fait les ondes au niveau des fenêtres, par exemple. Et donc là, que ce soit pour la 4G, la 5G, on a besoin parfois de compléter à l'intérieur de ces bâtiments par des équipements un peu spécifiques. Ça peut être le cas, par exemple, sur un campus universitaire, mais également dans un site tertiaire pour une entreprise ou sur un site industriel, sur une chaîne de production.
Je me posais la question, dans la recherche, les gens qui cherchent donc dans les réseaux, dans la 5G et dans leur évolution, est-ce que ces personnes-là ont eu accès à la 5G déjà il y a quelques temps, ou est-ce qu'ils sont en train d'avoir accès à cette technologie pour faire des recherches dessus, dans leur système par exemple ?
Les chercheurs, ils accompagnent le développement. Hein. Ils sont assez peu souvent dans les organismes de normalisation, en revanche, ils sont en amont. Il y a beaucoup de projets qui, depuis 10 ans, sont soutenus largement par la Commission européenne qui a passé des partenariats avec l'industrie, justement, l'industrie des opérateurs. Et donc, les chercheurs, dans les laboratoires, y compris académiques, sont tout à fait au cœur de ça. Après, avant que ça soit déployé, il y a bien sûr des phases d'expérimentation. Par exemple, dans le cas des projets de la Commission européenne, c'était en 3 phases. Donc, la dernière phase, c'était les phases d'expérimentation. Donc, quelque part, c'est une relativement faible proportion des chercheurs qui sont actifs sur ces sujets-là, peuvent participer eux-mêmes à des expérimentations, faire quelques tests, spécifier certains types d'expérimentations. comment les choses se font. Mais c'est, ça met des années, hein, quelque part. Si, par exemple, pour donner un exemple très, très simple, la 6G qui est supposée venir peut-être dans, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dessus, notamment en Europe. Les Finlandais, par exemple, ont un gros projet là-dessus. Donc ça, ça se fait assez longtemps à l'avance. Donc, c'est vraiment une démarche amont qui, petit à petit, va vers des expérimentations un peu en proche de la réalité. Et quand c'est déployé, tout ça a été bien consolidé. Bien sûr,
on reviendra, pardon,
pour fabriquer les équipements eux-mêmes qui sont concernés.
Pardon, on reviendra sur la 6G un petit peu en fin d'émission, Alain Sibylle. On va bientôt faire une petite pause musicale dans notre émission, mais avant, j'aurais voulu savoir, Arnaud Van Paris, bon, nous avons en France des zones inhabitées. Tout à l'heure, Alain Sibylle nous parlait de densité de besoins. Est-ce que c'est alors souhaitable de couvrir tout le territoire en 5G ?
Alors, la priorité à court terme, hein, pour l'ensemble des opérateurs en France, c'était déjà la couverture en 4G, hein, du territoire. Hein. Et donc, il y a eu effectivement un accord avec le gouvernement pour un partage de réseau, hein, du réseau mobile entre les quatre opérateurs pour qu'on fasse des sites mobiles en commun, hein, pour garantir finalement une couverture à l'ensemble du territoire, y compris à nos citoyens qui habitent dans des zones moins habitées. Ça, c'est en cours. Ce déploiement au niveau du territoire est en cours. Et ce qu'on va pouvoir faire à ces endroits-là, même si le besoin de débit est limité, hein, par une densité plus faible, on va pouvoir le rendre compatible progressivement, ces zones, avec la 5G. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre finalement le logo 5G sur ces bandes 4G déployées. Ça, c'est aussi une possibilité que nous offre le standard, hein, de compléter avec la nouvelle fréquence et l'équivalent fibre que je mentionnais, d'avoir dans des zones où on a moins de demandes, mais où on pourra bénéficier aussi progressivement des services 5G. Sans attendre ça, hein, on a bien un déploiement 4G en cours, hein, commun entre les différents opérateurs, en particulier dans les zones blanches, qui permet d'avoir, chacun est accès finalement à Internet. Hein. Ça devient quand même de plus en plus obligatoire dans notre quotidien. Et donc, il est important de ne laisser personne, voilà, sur le côté dans les technologies. Donc, on aura bien un déploiement ciblé, centre urbain, zone d'activité économique, mais sans oublier l'ensemble des territoires et des zones moins habitées.
Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant. C'est l'heure de prendre des nouvelles d'une amie à nous. Elle s'appelle Science, avec un S majuscule. Et c'est Jade qui en est la messagère aujourd'hui.
Malgré les conditions difficiles et le contexte actuel, la science avance et n'attend pas. Et c'est pourquoi le mois de janvier ne déroge pas à la règle et nous apporte son lot d'innovations et de nouvelles scientifiques. Et en parlant d'innovation, l'aérospatiale pourrait bien avoir vécu une journée déterminante ce mois-ci. La fusée Virgin Orbit a atteint l'espace pour la première fois dimanche 17 janvier. Vous me direz, qu'y a-t-il de nouveau dans le fait qu'une fusée atteigne l'espace ? Eh bien, tout simplement, la façon dont elle l'a atteint. Cette fusée a été lancée grâce à un Boeing 747 modifié, appelé Cosmic Girl. Cela ouvre de perspectives immenses. Plus besoin de rampes de lancement qui doivent être installées exprès. Désormais, une seule piste d'aviation devrait suffire. Le Boeing s'envole avec la fusée fixée sous son aile. Ensuite, la fusée prend le relais lorsque l'avion est assez haut, atteint l'espace et place en orbite des petits satellites allant de 300 à 500 kg. Nous devons cette innovation à la société de Richard Branson. Pourtant, ce mois-ci, ce ne sont pas que les entreprises privées qui mettent la main à la pâte pour la recherche scientifique. Notre président, Emmanuel Macron, était à Orsay jeudi 21 pour une annonce spéciale. Un plan d'investissement national d'1,8 milliard d'euros dans les technologies quantiques pour les 5 prochaines années. L'État compte investir environ 1 milliard d'euros dans la recherche et le reste sera donné par des organismes privés. Le plan d'action est de se concentrer principalement sur les ordinateurs quantiques pour les développer, puis les capteurs et enfin la cryptographie. Avec cet investissement, le président souhaite placer la France dans le trio de tête mondial des technologies quantiques. Une aubaine pour la recherche, mais aussi pour les chercheurs, puisque le plan d'investissement contient des projets de bourses et de subventions pour attirer et garder les scientifiques en France. Cette nouvelle a de quoi réchauffer le cœur de la communauté scientifique. Et en parlant de cœur, le cœur artificiel Karma a reçu le mois dernier le feu vert du régulateur européen. Et c'est ce mois-ci que la société a annoncé la commercialisation de ce cœur pour le second trimestre 2021. La commercialisation se fera en France et en Allemagne, et de façon progressive. Le cœur a été décrété sûr et efficace pour les malades en attente d'une transplantation cardiaque. De quoi prolonger la vie de nombreuses personnes dans le besoin. Voici un petit aperçu des actualités scientifiques de ce mois-ci, qui sont quand même de bonnes nouvelles et qui nous mettent du baume au cœur. Et ce, qu'ils soient artificiels ou non.
À l'instant sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le 93.9. Ce soir, l'atome de savoir parle de la 5G avec Alain Sibille, professeur à Télécom Paris et secrétaire général d'Urci France, et Arnaud Van Paris, directeur des réseaux radio du groupe Orange. Tout à l'heure, nous parlions des zones blanches en France. Je vous propose maintenant d'élargir notre conversation à l'Europe. Arnaud Van Paris, aujourd'hui, où en est-on du déploiement de la 5G en Europe ?
Alors, la 5G se déploie dans tous les pays européens. On a quand même besoin d'une nouvelle bande de fréquence qui est entre 3,4 et 3,8 GHz, comme on l'a déjà mentionné. Hein. C'est proche de ce qu'on utilise pour le Wi-Fi là, à la maison. On utilise deux bandes de fréquence, 2,4 et 5 GHz. Donc, c'est cette bande de fréquence qui permet vraiment de déployer une 5G avec une qualité de service encore meilleure que la 4G. Cette attribution de la bande de fréquence se fait progressivement dans les États membres. Donc beaucoup l'ont en fait réaliser les enchères en fait en 2020. Et donc ça a permis à beaucoup d'opérateurs de lancer en fait la 5G en 2020. Nous, en tant qu'Orange, on avait déjà lancé en Roumanie en fin 2019. On a pu lancer en Espagne, en France, notamment en 2020. Et donc on le fait au fur et à mesure que ces fréquences sont attribuées. On a un gros rythme de déploiement maintenant en Europe. En plus, avec la crise sanitaire, on a vu l'importance de la connectivité. On a vu qu'on était déjà capable, avec les réseaux fibres, de bien faire face à la demande sur le réseau 4G aussi. Et donc, ça nous permet de continuer à apporter la meilleure qualité de service à un moment où la connectivité devient plus essentielle. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les différents pays où on opère en tant qu'Orange. On a effectivement aujourd'hui également beaucoup de discussions sur des plans de relance, comme cette connectivité 5G va être aussi un vrai enjeu de compétitivité, de différenciation pour les entreprises. On a beaucoup d'États membres qui ont mis l'infrastructure fibre et l'infrastructure 5G dans les plans de relance, pour permettre une vraie reprise d'activité dans les différents secteurs d'économie. Et donc, nous, on va accompagner ça en tant qu'opérateur pour pouvoir faire rendre disponible cette nouvelle génération 5G à un maximum de clients en 2021-2022.
Alors, je suis désolé, je vais aborder un sujet un petit peu sensible du côté de la 5G, puisque vous le savez, la 5G a quand même mauvaise presse en ce moment. Pour autant, on a du mal à comprendre pourquoi ce sont les possibles problèmes sanitaires qu'elle poserait qu'on retient contre elle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alain Sibylle ?
J'en pense que ces questions sont soulevées depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération, le débat revient sur la table avec un peu toujours les mêmes questions. Un peu toujours les mêmes plus ou moins mauvaises réponses ou plus ou moins bonnes réponses selon les cas. Donc, c'est pas radicalement nouveau. Les gens ont crainte que les ondes, quelque part, aient des effets néfastes sur la santé. Donc, c'est tout à fait légitime de se poser de telles questions dans la mesure où il s'agit de champs électromagnétiques artificiels et que les êtres vivants, depuis l'aube de l'humanité et avant, n'étaient pas soumis à ces champs-là. Donc, c'est légitime de se poser des questions comme ça. Des champs relativement faibles peuvent avoir des effets physiologiques, biologiques, qui sont d'ailleurs très compliqués à identifier. Et surtout, ce qui est très compliqué, c'est identifier un effet possible néfaste. Voilà. Donc, la question du risque cancérigène possible, en fait, c'est une non-réponse. On ne sait pas très bien. Alors, comme on n'est pas complètement sûr qu'il n'y en a pas, on dit que c'est possible. C'est une non-réponse. Donc, on est toujours dans la même situation. Les fréquences de la 5G actuelles, 3,4 à 3,8, en gros, sont un peu différentes de la 4G, elles-mêmes un peu différentes de la 2G. Donc, ce n'est pas des écarts gigantesques, premièrement. Deuxièmement, plus la fréquence monte, moins ça pénètre. Et on peut se dire que quand les ondes pénètrent les organes vitaux, c'est peut-être là qu'il peut y avoir des effets importants. Plus on monte en fréquence, moins ça pénètre. Donc, à 3,5, ça pénètre déjà un peu moins qu'à 2,6, etc. etc. Bon. D'autre part, les champs sont réglementés. On a des champs limites. Et en règle générale, pour la grande majorité des usages du quotidien, on est très en deçà. Bon, tout ça, ça fait un ensemble de raisons qui conduisent à dire que même s'il faut toujours être attentif, continuer à faire des études épidémiologiques ou des études physiologiques, biologiques, il n'y a pas de raison importante et sérieuse pour dire que la 5G est radicalement plus dangereuse que les générations précédentes, absolument pas. Il faut être attentif, mais pas beaucoup plus de raisons de s'inquiéter que jusqu'à présent.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en l'état actuel des connaissances, rien ne vient étayer la thèse selon laquelle la 5G poserait un problème pour la santé. On utilise des bandes de fréquences qui sont connues, proches de celles utilisées en 4G. Et puis surtout, on a un respect de la réglementation. On a des seuils d'exposition à ne pas dépasser. On respecte en 2G, 3G, 4G et maintenant en 5G. On a une agence nationale des fréquences qui veille au respect de ces seuils là en France. Et l'ensemble des résultats sont publiés. Après, on a devoir de vigilance au niveau de chaque technologie. Et donc, c'est ce qu'on fait sur la 5G, hein, pour que, quelles que soient les situations d'usage, on respecte bien les seuils en vigueur. C'est vrai que le débat de la 5G là, en cours en France, où certains élus ont émis des positions opposées à la 5G, c'est un peu pas une exception française, mais on voit moins ce débat ailleurs, en Europe, et encore moins dans le monde. Et donc, c'est à nous de bien expliquer, de bien poser le débat, de faire preuve de pédagogie autour du progrès apporté par la technologie, si on l'utilise correctement. Pour nous, la 5G, elle est indispensable pour maintenir la qualité des réseaux et répondre aux besoins de connectivité. C'est un enjeu pour l'industrie et puis pour le grand public. Même si on n'attend pas des usages révolutionnaires, dans le temps, on va voir apparaître de nouveaux usages. Et dès le début, on a un confort quand même qui est exceptionnel, en extérieur, en intérieur. Et voilà, en particulier en ce moment, on fait beaucoup de choses à distance. Je pense que ça arrive au bon moment.
Eh bien, merci. Donc, on n'arrêtera pas le progrès cette fois-ci. Dans ce cas-là, je me permets de vous parler. Donc, bon, on a parlé de l'impact sur l'industrie, hein, l'impact de la 5G sur l'industrie. Mais il y a aussi la notion de smart city, donc la ville intelligente. Elle prend de plus en plus de place, cette notion. En quoi la 5G favoriserait-elle le développement des villes intelligentes, Alain Sibille ?
Eh bien, les villes intelligentes, elles utiliseront probablement dans les années qui viennent pas un seul système, probablement plusieurs. Bon, il y en a déjà, ça fait très longtemps qu'on parle de ville intelligente, d'Internet des objets. Et en gros, les villes, elles vont devoir être plus économes, énergétiquement, plus vertes. Et on peut tout à fait imaginer qu'avec des systèmes de traitement de toutes sortes d'informations plus fins, plus efficaces, qui sauront se connecter avec des réseaux globaux de gestion de l'information, où il y aura de l'intelligence artificielle, il faudra des capteurs un peu partout, des capteurs qui durent longtemps, parce qu'on ne va pas les changer tous les 4 matins. Donc, il faut des technologies de connexion qui soient effectivement peu consommatrices de ressources énergétiques locales. Et puis, ces technologies de connexion, là encore, il y a plein de critères différents de débit, de taux d'erreur, des émissions, des connexions qui peuvent être très, très, très rares, très occasionnelles ou au contraire un peu plus fréquentes. Donc il n'y a pas qu'un seul réseau. Et la 5G, elle a ses caractéristiques. La 4G en a aussi d'autres. Donc tout ça va un peu cohabiter, coexister. Et bon, les particularités de la 5G intéressantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la fiabilité. Et la faible latence. Donc, pour un certain nombre d'usages, clairement, la 5G sera très, très, très importante et apportera beaucoup. Mais pas pour tout. Elle ne va pas tout remplacer, ou en tout cas, pas tout de suite. Donc, ce sont des choses qui vont petit à petit évoluer. Bon, je vais faire un peu de publicité pour dire qu'on est en place à Télécom Paris, en train de mettre en place une formation pour les décideurs, justement, des entreprises et des collectivités, notamment. Et l'objectif, c'est pas de vendre la 5G à tout prix, c'est de montrer ce qu'elle peut apporter, à quelles conditions et quelle échéance dans le temps. Et donc, là encore, c'est un processus qui va s'affiner. Et comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure par Arnaud Vanparis, quand une technologie là, on découvre comment l'utiliser, ça met un peu de temps, et on découvre à quel point elle peut être géniale dans certains cas, et peut ne pas être vraiment utile dans d'autres, et je pense que c'est ce qui va se produire là encore pour la 5G, y compris pour le domaine, disons, du green, de la ville intelligente, de l'agriculture, de la santé. Il y a beaucoup à apprendre, et il faut simplement tirer le mieux de cette technologie.
Arnaud Vanparis.
Oui, juste pour compléter, effectivement, la 5G, elle soutient la transformation digitale des entreprises, en particulier dans un des domaines qui est pour tirer parti des usages en temps réel, hein, puisque les entreprises, elles sont maintenant capables d'exploiter les données au moment un peu où elles sont produites. Donc, elles deviennent un peu plus agiles, plus proches des besoins de leurs clients, plus réactives. Et on fait ça, en fait, en combinant différentes technologies. Donc, une technologie de connectivité, la 5G va apporter des choses en plus de la 4G. Également, le fait qu'on ait pas mal de connectivité dans les objets, hein, ce qu'on appelle l'Internet des objets, des capacités également de traitement de l'information avec de l'algorithme, hein, l'intelligence artificielle, cette capacité en plus d'avoir cette intelligence au plus proche, hein, de l'objet. Donc on voit que ça crée vraiment un nouveau monde de possibles, et en particulier dans le domaine de la ville intelligente. Donc c'est valable pour la gestion des déchets dans une ville, c'est valable également pour la mobilité. Si on imagine que c'est une fluidification, une automatisation des transports, pour les navettes, les trains, pour les vélos, pour les services de partage, de la mobilité. Donc finalement, ça permet vraiment une adaptation des besoins de façon plus dynamique, plus différenciée. Donc ça va être au bénéfice de nous en tant que habitants, puisque ça va nous permettre d'avoir, je pense, une meilleure sécurité pour les populations, une meilleure maîtrise des processus industriels critiques, et en particulier dans les villes importantes. Et on voit bien là ici en Île-de-France, par exemple, comment on a besoin dans notre vivre ensemble, d'avoir de nouveaux outils qui nous permettent d'avoir une meilleure efficacité et une moins forte empreinte environnementale.
Très bien. Alors, après la 5G, verra-t-on arriver la 6G à Arnaud Van Parys ?
Alors, on est vraiment tout au début. Je pense qu'un civil complétera. On est vraiment dans la phase amont de recherche. Chaque décennie, on a une nouvelle génération. Donc, c'est normal maintenant que la 5G soit commerciale, qu'on commence à travailler sur les technologies clés pour la 6G. C'est ce qui est en cours. D'ailleurs, les projets européens viennent de démarrer. On a à peu près pour deux ans et demi pour caler un peu les technologies clés qu'on mettra dans la 6G. On a un gros projet européen où nous, on participe en tant qu'Orange, qui s'appelle EXA-X, va définir un peu les techno-clés qu'on va y mettre dedans. Ça va être à la fois des choses où on voit qu'on aura une limite dans les technologies précédentes, 4G, 5G, ça sera des choses aussi nouvelles. Je pense que ça doit être fait d'ailleurs vraiment en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, les universitaires, les industries, les opérateurs, les fournisseurs d'équipements. Et donc, le fait qu'on ait de gros projets européens est plutôt des bonnes nouvelles pour qu'on ait notre voix au chapitre sur le prochain standard par rapport à d'autres géographies comme en Amérique, en Asie, que la voix européenne puisse compter et qu'on fasse pareil une 6G qui soit utile au quotidien.
Alors, Alain Sibyl, je parle sous votre contrôle. La 5G aujourd'hui, si on résume, c'est plus de données mais moins de consommation par octet et plus de bandes passantes pour pouvoir traiter un maximum d'informations dans le nuage, le cloud. Alors, la 6G, est-ce qu'on sait ce que ça va être, les usages et les besoins auxquels elle répond ?
Pas encore vraiment. Disons que c'est un peu du toujours plus, effectivement. C'est-à-dire qu'il va falloir progresser encore sur la latence, progresser encore sur les débits. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, vous savez, moi, je vais vous dire une anecdote. C'est vraiment personnel. Quand j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de recherche en 1981, j'ai acheté un micro-ordinateur et il avait 64 kilo-octets de RAM. Et j'ai mon chef qui m'a dit, mais 64 kilo-octets, mais tu n'en auras jamais besoin d'autant. Donc, c'est toujours très, très difficile. Donc, ça peut être vu comme une forme de course en avant, de fuite en avant, c'est vrai. Mais l'expérience montre qu'on pense qu'on en a toujours assez, et une fois que c'est là, en fait, on utilise et on découvre et on invente de nouveaux usages. Donc, la logique, c'est celle-là, ce qui fait que c'est difficile d'entrevoir, mais si la technologie est capable de faire, on a envie de faire, puis on découvre après coup que c'est utile. Alors après, on peut avoir des critiques sociétales, et je pense que c'est très important d'y être attentif une fois de plus, c'est de se poser les bonnes questions, et au bon moment. C'est-à-dire que si on veut contester, ce n'est pas quand on déploie, c'est 4, 5, 6 ans avant. S'il doit y avoir des contestataires de la 6G qui se réveillent maintenant, pour être un peu caricatural. Mais c'est difficile d'en dire plus que ça aujourd'hui, parce que les labos phosphores, les chercheurs imaginent, Et après, ils essayent de voir comment réaliser, et puis on commence à expérimenter, et puis à imaginer les usages. Voilà, c'est un peu ça, toute cette espèce de chaîne d'innovation et de recherche. Donc, c'est un peu difficile de dire aujourd'hui à 7-8 ans de distance, mais je pense que vraisemblablement, on sera un peu dans cette même démarche générale. Et avec l'application de tous les acteurs, effectivement, le monde académique, quelquefois très, très amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on imagine des choses pour la génération qui va venir. En fait, elles sont réalisées de la génération suivante. Donc, c'est le MIMO, ça fait 20 ans quand même qu'on en parle. Hein. Et on en a parlé pour la 3G, pour la 4G, ça a commencé très petitement. Et là, la 5G, c'est vraiment là. Donc, je pense qu'il faut être un peu optimiste, pas être trop négatif. Mais être prudent, là, je suis d'accord.
Et donc, sur cette recherche et développement pour la 6G, les acteurs, donc aussi bien universitaires que privés, travaillent ensemble ou alors chacun travaille de son côté et de temps en temps, on regroupe les résultats?
Non, les gens travaillent ensemble pour une raison très simple. Les académiques, ils ont besoin d'argent. D'où vient l'argent? Des industriels et puis, des entités publiques. Hein, tout ça travaille ensemble. La Commission européenne a mis en place un partenariat public-privé, il y a déjà pas mal d'années, ce qui va se poursuivre. Donc, c'est de l'argent conjoint, disons, des différents acteurs. Et les académiques, ils sont aussi très contents de travailler avec le monde industriel, tout simplement, parce que pour les étudiants, pour les doctorants, c'est aussi des débouchés. La France n'est pas trop mal placée avec un certain nombre de dispositifs dans ce sens-là. Et donc, quelquefois, il y a des recherches très théoriques, quelque part, sont un peu, exotiques, éventuellement. Mais petit à petit, les choses se font. Et comme je disais, c'est plutôt à deux générations qu'à une génération qu'on voit vraiment les innovations se mettre en œuvre. Mais ça va continuer vraiment à être un travail concerté entre académique et industriel. Et je pense que c'est très bien comme ça.
Donc, une dernière question pour chacun d'entre vous, mais rapidement. On a compris que les usages et l'utilité d'une technologie venaient une fois que son déploiement était déjà très un peu avancé. Mais en ce qui concerne la 5G, on connaît déjà un petit peu les usages, comme par exemple, je prends l'exemple de la voiture autonome, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Bon, on sait que la voiture autonome, c'est quand même pas pour tout de suite, même si ça se développe un petit peu. Alors, dans ce cas-là, pourquoi développer la 5G maintenant et pas dans quelques années, où elle sera vraiment plus utile? Arnaud Van Paris.
Il y a deux aspects. Déjà, pour une voiture autonome, on voit bien qu'il faut une couverture du territoire. Donc là, aujourd'hui, on l'aura en 4G, on l'aura en 5G que dans quelques années. Donc ça, il faut quand même anticiper les choses. Et puis, de façon plus court terme, comme je l'ai indiqué, on a une forte demande, une croissance des usages, 40% par an. On arrive en saturation en 4G avec les fréquences qu'on avait jusqu'à présent. Et donc, il était important qu'on nous attribue une nouvelle bande de fréquences. Là, ça a été fait fin d'année dernière en France. Donc, ça nous a permis de faire le lancement commercial et ça va nous permettre de continuer à avoir une bonne qualité de service dans la décennie qui vient. Et donc, on n'aurait pas eu cette bande de fréquences et l'arrivée de ce standard 5G plus performant. On serait obligé de multiplier le nombre d'antennes 4G. On serait obligé d'avoir une croissance très forte de la consommation énergétique des réseaux 4G. Et je ne suis pas sûr que, on soit dans cette logique-là, que ça soit accepté. Donc là, la 5G arrive au bon moment pour ne pas rajouter trop d'endroits où on pose des antennes pour ne pas avoir cette forte augmentation de la consommation énergétique qu'on aurait eu en 4G. Et puis également, ça aurait été plus cher de rajouter ces nouveaux sites, ces équipements en 4G parce que c'est en 5G. Naturellement, l'investissement 5G est important, mais ça aurait été, je pense, insoutenable. Ça aurait nécessité même qu'on augmente les abonnements, les opérateurs augmentent les abonnements. Donc on est, je pense, vigilant là-dessus pour qu'on ait un modèle économique qui tourne, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est ce que nous, on pousse en tant qu'Orange, d'être le meilleur sur la qualité et sur de rendre cette 5G abordable pour nos clients au fur et à mesure que les smartphones arrivent compatibles 5G.
Alain Sibylle, c'est vous qui avez le dernier mot.
Non, je peux que être d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est sûr qu'on est obligé d'avoir un phasage qui impose de commencer à mettre à disposition avant de voir vraiment ce que ça devient. Mais je vais quand même rappeler un peu l'histoire. Hein. C'est jamais inutile d'avoir un retour un peu sur le passé. L'aventure du GSM a été totalement, mais alors totalement inattendue pour les industriels, les opérateurs. Ils ont été absolument débordés. Je ne sais plus exactement le nombre d'usagers qui était prévu. C'était dans les centaines de milliers, peut-être, ce qui était une très grande avancée par rapport au système précédent qui était beaucoup plus restreint en termes de nombre d'utilisateurs. Et maintenant, il y a à peu près un portable par habitant, y compris des bébés et des personnes très, très âgées, quoi. Si vous voulez, c'est là encore, c'est, et ça s'est fait pas le premier jour, parce qu'il faut faire tomber les tarifs, les prix, et puis après découvrir à quel point c'est intéressant, et ça modifie effectivement les usages. Moi, je pense, je vais revenir quand même sur ce point-là, mais pour terminer, je pense qu'il est important, et c'est là qu'il faut qu'il y ait aussi un débat sociétal, se faire peut-être aider par des sociologues, par des associations aussi. Je pense que le regard critique des associations peut être tout à fait utile, pour autant que c'est un regard éclairé, un regard qui accepte le débat et pas un regard fermé qui a déjà pris des positions sur lesquelles il ne veut pas revenir. Mais dans ces cas-là, utiliser intelligemment ces technologies, faire attention aux risques écologiques, et ils ne sont pas négligeables, effectivement, de toutes sortes, bah, je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire. Bon, et petit à petit, sur les années qui viennent, bah, il faut un petit peu que tous les acteurs, disons, s'approprient ces questions-là et, disons, faire avancer les choses globalement dans le meilleur sens. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste vu la façon dont les choses se sont faites depuis 30 ans.
Merci à vous, Alain Sibyl et Arnaud Vanparis, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes Alain Sibyl, professeur à Télécom Paris et secrétaire général d'Urci France, et Arnaud Vanparis, directeur des réseaux radio du groupe Orange. Je vous propose d'écouter ce cher Vadim qui va faire un grand plongeon dans l'infiniment grand.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
Je pensais à cette pandémie et je commençais à trouver le temps long. Je le trouvais même infiniment long. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait, l'infini? Non, parce qu'en fait, le symbole de l'infini, c'est qu'un 8 qui sera en train de dormir. Et pourtant, ce symbole, il implique tellement de choses, mais surtout beaucoup de choses en physique, où certains parlent même d'un univers infini tellement que c'est énorme. En fait, l'infini, c'est en quoi on ne peut ni concevoir, ni observer de limite. Comme dirait un célèbre philosophe, bon, Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, attachez vos ceintures, on va visiter l'infiniment grand, on va visiter l'univers. Alors pour commencer, plaçons-nous à notre échelle, celle d'un humain moyen, sur Terre. J'ouvre les yeux, mon champ de vision peut s'étendre jusqu'à 5 km de distance. Alors, au loin, c'est l'horizon. C'est le début de notre quête d'exploration de l'infini. Depuis longtemps, l'homme cherche à découvrir les limites de notre monde. Alors, lorsqu'il a fait le tour de la Terre, il se met à scruter les étoiles. Dans les étoiles, la limite des 5 km de notre vision semble ridicule. Pour mieux comprendre le gigantisme de l'univers, on va commencer par mesurer quelque chose. La Terre mesure 12 400 km. Et bien sûr, le système métrique préconise d'utiliser les mètres pour mesurer les choses. Donc, si on voit un peu plus loin que la Terre, on se dit qu'on va aller sur la Lune. Et la distance entre la Terre et la Lune, eh bien, c'est 384 400 km. Ce qui correspond à environ 30 fois la planète Terre mis bout à bout. C'est-à-dire qu'il faut 30 planètes Terre collées pour faire la distance Terre-Lune. Maintenant, on va aller au Soleil. Eh bien, c'est plus 30 planètes qu'il faut. Non, c'est 11 740 fois la planète Terre mis bout à bout. C'est vraiment énorme, c'est quelque chose de gigantesque. 11 000 planètes comme la nôtre, mis bout à bout pour aller jusqu'au Soleil. Mais quand tu dépasses le milliard de kilomètres, bah, tu te dis, en fait, c'est peut-être pas adapté. Les scientifiques ont inventé une unité de mesure qui est relativement connue par peut-être beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle l'année-lumière. C'est la distance que parcourt la lumière durant une année. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est un peu, peut-être comme vous le savez, la chose la plus rapide de l'univers. Elle va à une vitesse folle. Maintenant, allons voir un peu plus loin dans notre galaxie. La Voie lactée, elle, c'est un peu, en gros, notre galaxie, elle mesure 100 000 années-lumière. Oui, 100 000 fois 10 milliards de kilomètres. Ça fait vraiment beaucoup, là. Pour mieux comprendre un peu ça, on va se tourner un peu vers la physique qui entoure l'infiniment grand. La physique qui entoure l'infiniment grand, c'est la théorie de la relativité. Donc, c'est un système qui vient bouleverser les fondements newtoniens de la physique Pour faire simple, c'est la théorie sur laquelle toutes les lois physiques devraient s'appliquer de façon identique, quel que soit le référentiel dans lequel l'observateur se trouve. C'est-à-dire, en gros, partout, les mêmes lois devraient s'appliquer. Cette théorie va tenter de comprendre et formaliser ce qu'il se passe pour les très grandes choses, là où les anciennes lois sont incomplètes. On arrive donc à décrire ce qu'il se passe dans l'univers, toutefois la limite physique nous empêche d'aller aussi loin que l'on souhaite. Voyageur 1 a quitté notre système solaire en 2012 avec l'héliosphère, mais quand on voit la grandeur de notre univers et juste de notre galaxie, de ses 100 000 années-lumière, on se dit qu'on n'aura jamais, peut-être jamais, un objet aussi loin de toute notre vie. Mais ça n'empêchera pas pour nous de fantamer sur ce qu'est ce gigantesque univers et ses 150 milliards d'années-lumière de taille.
Et merci Vadim, l'atome de savoir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Guillaume pour son aide sur la préparation de l'interview. On se retrouve le 25 février pour une nouvelle émission. En attendant, sachez que vous pouvez nous écouter et réécouter sur Spotify et radiocampusparis.org. Nous avons aussi un compte Twitter, Instagram et même une adresse mail, latomedesavoir@radiocampusparis.org, tout attaché. C'est Johanna qui répondra à vos messages, toujours avec bienveillance. A bientôt sur Radio Campus Paris, restez curieux et surtout, portez-vous bien.